Et nous sommes ici pour écouter vos commentaires. Alors, nous aurions voulu nous concentrer uniquement sur l'interaction avec vous, donc la communauté ICANN au cours de la session publique d'aujourd'hui. Mais les membres de la TRT ont pris note des commentaires négatifs de Rod Beckstrom sur l'objectivité de notre travail. Il est décevant de voir que M. Beckstrom se sentent obligés de critiquer notre travail alors qu'il ne fait que commencer. Comme ICANN, nous sommes des organisateurs d'organes multipartites et comme le conseil d'administration d'ICANN, nos membres comprennent des parties prenantes, des représentants de la communauté d'utilisateurs, des gouvernements, des parties non commerciales, la communauté CCTLD et des parties contractantes. Effectivement, le président du conseil d'administration ainsi que le président du GAC a sélectionné les membres de l'équipe d'évaluation. Je peux vous assurer, sur base de mes premières interactions avec les membres de l'équipe d'évaluation, que la TRT est composée de professionnels sérieux et qui travaillent dur et qui viennent de différentes parties de la communauté d'ailleurs. Et ils partagent largement l'engagement dans le succès de l'ICANN. Nous travaillons pour être ouverts, pour écouter la communauté, pour nous écouter les uns les autres et nous voudrions que notre travail soit jugé sur ses mérites. Nous sommes très heureux d'avoir cette occasion aujourd'hui que nous offre la communauté ICANN. La TRT a pris contact avec tous les groupes qu'il représente. Nous nous sommes réunis pour la première fois au début mai avec l'équipe et maintenant nous réalisons notre travail d'une manière ouverte et transparente. Nous tenons des réunions ouvertes et les rapports de nos réunions d'équipe et de nos appels sont mis à la disposition du public. Maintenant, je voudrais que les membres de l'équipe d'évaluation se présentent.
Warren Edelman, president of GoDaddy.com.
Warren Edelman, président de GoDaddy.com. Wallonie, senior architect, Wakelnex.
Becky Pearl,
CCNSO, conseil CCNSO. Fabio Quasanti, jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais avec la Commission européenne et maintenant je suis le président de l'Institut international de communication. Je m'appelle Smile, je suis la représentante de l'Égypte au GAC et je suis la vice-présidente de l'équipe. Olivier Muran, je travaille pour France Télécom à Paris. Et Liliarte, je viens du lac TLD, l'association des CCTLD de l'Amérique latine et des Caraïbes. Shelley Nandano, présidente actuelle du comité consultatif at large. Larry Strickline, ministère américain du commerce, nord-américain du commerce. Willie Curry, je travaille avec l'association pour la communication progressive. Merci. L'équipe d'évaluation a posé des questions à la communauté en utilisant le paragraphe 9.1 de l'affirmation des engagements comme guide. La date limite pour les réponses a été étendue jusqu'au 14 juillet. Nous vous encourageons vivement à répondre à ces questions, à faire vos commentaires. Cette session sera organisé comme un forum public avec un micro à votre disposition. Les questions se trouvent à l'écran, mais vous n'êtes pas, vous pouvez l'utiliser comme guide, mais vous n'êtes pas tenu de répondre aux questions. L'équipe d'évaluation s'intéresse particulièrement à des exemples spécifiques où la communauté des membres pense que le processus de prise de décision d'ICANN n'a pas répondu aux normes de responsabilité et de transparence que l'on attend d'ICANN. Je vous donne la parole pour tous ceux qui souhaiteraient faire des commentaires. Je suis désolée, Monsieur le Président, un point d'ordre d'abord. Je m'appelle Marilyn Cade. Où sont les transcriptions en temps réel? Parce que nous avons des membres qui participent à distance. Et je reviendrai ensuite au micro avec des questions. Merci, Alice. Ça fonctionne, c'est disponible sur Internet. Vous cliquez sur le point « Schedule ». Et Alice, est-ce qu'on peut afficher ça à l'écran? C'est en cours. Merci pour ce point d'ordre. Steve, tu préfères attendre l'écran en Internet ou Merci Brian Steve Jebiak pour NetChoice. Nous lisons avec intérêt la liste de questions et nous voyons que lorsque nous plongeons dans la banque de mémoire, lorsque nous regardons les commentaires que nous avons faits par le passé, effectivement, il y a beaucoup d'exemples spécifiques. Mais je dois vous dire que je me bats avec le niveau de spécificité et le niveau de recherche que je dois réaliser pour vous donner quelque chose, des éléments avec lesquels vous puissiez travailler. Il y a eu des incidents lors de réunions précédentes, des commentaires du public qui tendaient à dire qu'on ne nous prenait pas en considération. Mais quel degré de détail devons-nous fournir dans les commentaires que nous faisons? Et une des préoccupations que j'ai, c'est si je prépare quelque chose, une chose à laquelle je crois, si ce texte est ensuite publié, je risque d'être considéré comme quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de détails sur la manière dont le personnel a répondu. Mais en fait, lorsqu'on s'adresse à eux directement, ils nous disent qu'ils n'ont pas tenu compte des commentaires. Alors, les choses que nous vous soumettons, est-ce que vous allez les compiler? Est-ce que vous allez accepter des exemples anonymes et des exemples incomplets? Si je n'ai pas toujours pu réaliser toutes les recherches nécessaires pour soutenir mes questions et pour fournir tous les détails. Merci pour cette question qui est très importante. L'équipe d'évaluation a discuté du fait que nous devons entrer ou entamer une analyse basée sur les faits de toutes les problématiques qui nous sont présentées. Alors cela peut entraîner des recherches sur des documents de ICANN déjà très anciens ou des communications qui datent d'il y a de nombreuses années. Donc c'est une tâche que l'équipe va entreprendre avec les ressources qui sont à notre disposition. Nous encourageons tous les membres de la communauté qui pensent qu'il y a des problématiques viables qui nécessitent une évaluation de nous soumettre toutes les informations dont vous disposez. Nous fonctionnons dans un environnement très ouvert et transparent. Nous avons une liste de diffusion publique. Nous vous donnerons un lien où vous pourrez soumettre vos documents et vos déclarations et ceux-ci seront publics en accord avec la philosophie et les objectifs de l'équipe d'évaluation. Nous allons prendre bonne note de votre question et nous allons la poster sur le site web. Bonjour, je m'appelle Marilyn Kay. Je parle en mon nom propre. Je suis la présidente du groupe d'utilisateurs commerciaux. Nous n'avons pas une position officielle à ce stade. Bon nombre de notre groupe parleront avec vous demain lorsque vous réunirez avec eux et certains d'entre eux feront des déclarations individuelles. Moi, j'encouragerai les utilisateurs commerciaux, aussi bien individuellement et collectivement, d'envisager la possibilité de faire une déclaration écrite. Mais en tout cas, j'encourage les membres individuels à répondre aux questions. Et moi, j'ai fait quelques commentaires par écrit que je vais vous résumer très rapidement. J'ai fait partie du comité de stratégie de la présidence pendant 3 ans et j'ai partagé une partie des tâches que vous avez maintenant, c'est-à-dire trouver une manière efficace de communiquer avec les membres de la communauté, mais le faire d'une manière rapide et efficace. Donc, j'ai partagé quelques idées par écrit par rapport à certaines choses que nous faisions. Je ne parle pas de voyager dans des lieux très distants, ça pourrait être tout à fait épuisant pour l'équipe. Passer des journées à voyager, ensuite consacrer des journées à travailler sur place. Mais il s'agirait d'utiliser très efficacement les infrastructures de conférences téléphoniques, de réserver des slots et pour que les gens puissent discuter avec l'équipe et faire des présentations organisées. J'en parlerai davantage à un autre moment. Je voudrais faire un commentaire sur la question des contributions anonymes malgré votre réponse. Nous en avons tenu compte très longuement dans le comité de stratégie précédent et nous l'avons rejeté. En fait, il peut y avoir des situations où des personnes ont besoin d'apporter des contributions confidentielles. Mais je pense que les contributions anonymes ne servent pas les besoins ni les intérêts des parties prenantes ni de l'équipe d'évaluation. Mon dernier commentaire traite de l'intégrité et du respect que j'ai pour les membres de l'équipe d'évaluation. Je suis un membre d'un groupe, d'une partie prenante et ce groupe a travaillé très dur pour proposer un nom et ils étaient tout à fait engagés dans le soutien d'une personne du groupe pour réaliser cette tâche. Nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons pu avoir un représentant par groupe de parties prenantes au sein du GNSO. Et Nous voudrions avoir le même équilibre dans les prochaines équipes d'évaluation. Voilà, je reviendrai probablement à ce micro. Merci beaucoup, Marilyn, pour tes commentaires. Très intéressant. En ce qui concerne le fait de poster des informations de manière anonyme, nous n'en avons pas discuté en tant qu'équipe et c'est la première fois qu'on nous pose une question à ce sujet. Donc, nous allons tenir compte de cette question et nous reconnaissons la nécessité de créer un lien sur le site web qui permette de localiser notre travail. Nous devons vous fournir un lien pour que vous puissiez publier vos informations. Donc, nous allons nous pencher sur cette question en tant qu'équipe. Nous allons mettre une notice sur le site et nous allons vous répondre. D'autres commentaires ? Steve, merci Brian, c'est une question. Donc, votre équipe s'est réunie avec le groupe de travail conjoint entre le Conseil et le GAC hier et selon, bon, certaines questions posées par le gouvernement étaient, consistaient à demander à quelle fréquence on leur demandait leur opinion et la fréquence des demandes officielles d'opinion. Je pense que avec le secteur privé, nous courons des risques si nous ne respectons pas les conseils qui émanent du GAC, particulièrement lorsqu'il n'y a pas la possibilité de faire entendre leur voix ailleurs. Donc moi, je demanderai à l'équipe, avez-vous, je sais que vous avez un membre du GAC qui est assis parmi vous, mais devez-vous préparer une demande officielle du GAC pour pouvoir fournir le type d'information que vous recherchez? Je sais qu'on peut publier des commentaires publics, mais je ne pense pas que le GAC considère toujours cela comme une demande officielle de commentaires. Alors, merci pour la question. Nous nous réunissons très souvent avec le GAC. Nous avons des échanges directs d'informations qui nous paraissent très constructifs. L'équipe d'évaluation elle-même et le GAC, d'ailleurs, en fonction du règlement d'aide intérieure, a une forme structurée d'interaction avec le conseil d'administration. Et c'est une des questions que nous avons examiner. En ce qui concerne l'équipe d'évaluation, nous fonctionnons de telle manière que nous puissions interagir avec tous les organes constituants de l'ICANN. Nous avons eu un échange très fructueux avec le GAC hier et nous souhaitons maintenir les canaux de communication ouverts. Et je dirais cela au nom de chacun dans la salle aujourd'hui, ce n'est pas une seule occasion, une occasion unique d'interagir avec l'équipe d'évaluation. S'il vous plaît, faites des commentaires aujourd'hui, mais si vous voulez, après cet événement, nous faire part de vos commentaires, de vos informations, de pensées, n'hésitez pas. Nous devons faire des recommandations en décembre. Nous sommes toujours dans la phase de collecte de données de notre travail. Je crois que pendant 2 ou 3 mois encore, nous allons rassembler des informations, collecter des données et ensuite nous allons, vers septembre-octobre, commencer à travailler sur des analyses et à développer des recommandations. Donc au cours des 2 ou 3 prochains mois, n'hésitez pas à nous communiquer vos réflexions, quelles qu'elles soient. Je viens du groupe des utilisateurs commerciaux. Un commentaire. Alors, un commentaire que j'ai souvent entendu dans les forums publics, c'était par rapport au compte rendu donc des réunions du conseil d'administration. C'est tellement évident que peut-être cela a déjà été dit plusieurs fois, et si c'est le cas, je vous prie de m'excuser, mais d'après ce que j'ai compris, lorsque les réunions du conseil d'administration n'ont pas lieu dans le cadre de rencontres publiques, alors il n'y a qu'un résumé qui est mis à disposition après l'événement. Donc il n'y a pas un véritable rapport de la réunion qui est publié, et ensuite les réunions du board, du conseil d'administration qui ont lieu par exemple lors de réunions publiques, il y a toujours une autre réunion du conseil d'administration en soirée, qui le précède. Donc j'aimerais bien avoir des informations plus étendues sur ces différentes réunions. Merci. Nous avons déjà entendu cela de la part d'autres personnes et nous en prenons note. Nous en prenons note, pardon.
Back to Steve's
question. Pour en revenir à la question de Steve sur le GAC, oui, hier, comme Brian l'a mentionné, nous avons eu un échange, un brainstorming très fructueux, un échange d'informations très fructueux avec le GAC. Et à la fin, nous les contributions individuelles seront intéressantes. Et certains pays vont apporter des contributions, mais sur une base individuelle, pays par pays, ce qui sera très utile aussi. Et je voudrais ajouter que nous avons envoyé une lettre au GAC en leur posant des questions spécifiques. Marilyn, j'ai une question par rapport à cela et ensuite j'ai une question à vous directement. Je veux être sûre que j'ai bien compris la question de M. Gabalianko et c'était pas seulement la manière dont on pouvait apporter de nouvelles contributions, de nouvelles inputs, mais la manière dont les communiqués étaient traités et s'ils étaient considérés automatiquement comme des conseils officiels au conseil d'administration. Et je pose cette question parce que c'est une question d'enregistrement public ou de prise de notes ou de publication entre moi-même et le président du conseil d'administration, le président du GAC sur ce sujet. Donc il y a eu un rapport là-dessus et je crois qu'une déclaration était faite selon laquelle les communiqués ne sont pas des conseils. J'ai posé la question de savoir s'ils le sont ou non. Alors je pose cette question, mais c'est la première question que nous avons posée lors de la réunion du groupe de travail conjointe hier. Alors ma question est liée à votre deuxième question. Alors j'ai discuté du sujet des mécanismes de responsabilité par le passé. Alors, dans l'intérêt de la divulgation, je noterai que j'ai utilisé les services de l'Ombudsman au moins deux fois. Et il y a une liste assez brève de personnes, en fait, qui ont utilisé ce qu'on appelle le mécanisme d'appel ou de responsabilité. Et je vous félicite d'avoir posé cette question et d'avoir demandé aussi quel type d'amélioration ou d'autres exemples pourraient être apportés. Par le passé, il y a eu, quelques fois, particulièrement par rapport au comité de la stratégie présidentielle du président, quelques suggestions qui ont été faites, des suggestions concrètes sur les améliorations dans le mécanisme qui consiste à rendre des comptes, d'obligation de rendre compte, qui pourrait être ajouté. Nous utilisons ce document parmi d'autres comme base pour notre travail et de nouveau nous nous référons pour notre travail au paragraphe 9.1 des affirmations des engagements. Nous avons une discussion dans l'équipe pour savoir jusqu'à quand dans l'histoire nous devions remonter. En tout cas depuis le 30 septembre de l'année dernière lorsque ces informations ont été rendues publiques jusqu'à aujourd'hui, cela a été une période de préoccupation particulière. Avant cela, nous avons identifié des initiatives spécifiques par rapport à la responsabilité, l'obligation de rendre compte et la transparence, y compris le comité stratégique du président, comme une communication pertinente que nous devons évaluer au fur et à mesure que nous avançons dans notre analyse et au fur et à mesure que nous avançons vers nos recommandations. Nous n'avons pas encore décidé de refaire tout l'historique, mais cela peut présenter des avantages. D'accord, merci. Becky, je voudrais juste recommander aux personnes les questions qui ont été soumises au GAC, au conseil d'administration et au groupe de travail du GAC et du conseil d'administration. Les questions que vous posez, par exemple, Marilyn, sont des questions qui nous intéressent énormément parce que nous avons, par exemple, demandé ce qui est compris dans la phrase, ce qui est couvert par la phrase « public policy matters », affaires de politique publique dans la formulation et l'adoption de la politique des CAN. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des exemples de ce qui constituerait des conseils sur les affaires de politique publique et quelques exemples qui ne tombent pas dans ce champ. J'apprécie beaucoup toutes ces questions. Elles me démontrent que la communauté en sait de plus en plus sur notre travail parce que toutes ces questions sont des questions de procédure qui portent sur la manière dont nous faisons notre travail. Je me sens parfaitement à l'aise pour en discuter en profondeur. Nous avons un site, une partie du site web de l'ICANN. À gauche, en bas, il y a une boîte qui dit évaluation AOC, AOC Reviews. Alors, nous y publions les documents, les rapports, les transcriptions de nos réunions, nos conférences téléphoniques, les documents sur lesquels nous avons travaillé. Becky vient d'y faire référence en demandant comment nous définissons certains termes. Toutes ces choses sont présentes sur les sites Internet. Elles peuvent être améliorées. Nous allons continuer à améliorer cette communication. Nous reconnaissons cette nécessité. Mais nous voulons utiliser, profiter de ce moment-là comme une opportunité physique de rencontrer nos membres. Je m'appelle Wolfgang Delschmein. Kleinwächter, Je viens de l'université de Aarhus et je pose ces questions au niveau individuel. Lorsque vous parlez d'histoire, je pense que certains d'entre vous sur le podium ont participé au début de l'ICANN lorsque la question de l'at-large représentait pratiquement 50% du débat. Pour le moment, donc à ce moment-là, il y avait le plan d'avoir 9 représentants at-large qui auraient eu le droit de vote au conseil d'administration de l'ICANN. Ensuite, nous avons eu l'élection. Ensuite, nous avons eu la réforme. Et finalement, nous sommes retrouvés avec le comité consultatif at-large. L'année dernière, il y avait au Mexique le premier sommet at-large sponsorisé par ICANN. J'étais le président de du groupe de travail sur la transparence et l'obligation de rendre des comptes et nous avons fait des recommandations. Et ma question est, vous savez, comment évaluez-vous l'interaction entre at-large et le conseil d'administration? Parce que d'après ce que j'ai compris ou d'après mon observation, tant qu'il y a beaucoup de discussions, on ne sait pas que signifie le comité consultatif gouvernemental pour le conseil d'administration. Il n'y a pratiquement pas de procédure en place sur ce que signifient les conseils du comité consultatif at-large pour le conseil d'administration. Et vous savez que signifie un conseil formel officiel s'il n'a pas de statut réel, s'il n'y a pas une procédure prévue. Donc c'est une question qui a déjà été posée, mais nous allons certainement nous pencher sur cette question et essayer de vous fournir vos réponses. Donc pour assurer Wolfgang, en tant que dirigeant de cette, en tant que responsable de cette équipe, c'est devenu une déclaration approuvée de l'ALAC. Et ensuite, c'est devenu un document important pour l'équipe, que l'équipe devait examiner. Un instant avant que nous passions à l'orateur suivant, nous avons 21 personnes qui participent dans la salle Adobe Connect maintenant. Et nous voulons accueillir leurs questions également. Alice, est-ce que tu te coordonnes avec Rob?
Oui, je m'appelle Carrie McCarthy. Et j'ai déjà travaillé sur l'obligation de rendre des comptes et la transparence à l'intérieur et à l'extérieur de ICANN et j'ai participé aux 3 efforts importants qui ont été faits. Le One World Trust, je faisais partie du personnel de soutien avec Paul Levens et Patrick Sherry. En ce qui concerne le cadre, les principes de responsabilité, de transparence, tous les aspects qui étaient liés avec mon travail, j'ai rédigé de grandes portions de ces principes. Et j'étais aussi membre du personnel dans la consultation pour améliorer la confiance institutionnelle. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur toutes les questions sur lesquelles vous vous penchez aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais vous donner des indices, vous signaler certaines choses. J'espère que ce ne sera pas interprété trop comme des critiques du travail de votre groupe. Je suis désolée si c'est le cas, mais c'est une des situations où je me sens obligée de prendre la parole. Je suis un peu préoccupée par le fait que vous ne donniez pas vous-même un bon exemple de ce que l'obligation de rendre des comptes et la transparence signifient dans le contexte ICANN. Je pense que vous acceptez trop rapidement les risques d'être tout à fait, que suppose le fait d'être tout à fait ouvert et trop lent pour pouvoir examiner d'autres manières de vous en sortir en étant complètement transparent et en rendant pleinement des comptes. J'ai entendu beaucoup de vos discussions et je pense que vous êtes trop rapide à accepter ces risques. Je pense que vous devriez peut-être prendre plus de risques avec les risques, pour être honnête. Alors, dans cette mesure-là, vous ignorez la sensibilité extrême qu'il y a dans la communauté par rapport à ces paroles, la transparence et la responsabilité ou l'obligation de rendre des comptes. Ces concepts ont toujours été un problème important pour l'organisation. Il y a énormément de sensibilité par rapport à ces concepts. Donc, tout ce qui n'a pas l'air transparent ou responsable va décourager les gens, va les faire fuir. Je le sais parce que j'ai essayé de le faire. ICANN, en général, font énormément de conversations et de feedback avec la transparence et la responsabilité. La transparence, ça veut dire qu'on peut suivre la réflexion d'un groupe, les arguments d'un groupe et les décisions de ce même groupe, qu'on peut suivre le fil logique, la manière dont le groupe va de A à B. Et la responsabilité ou l'obligation de rendre compte signifie que si vous n'êtes pas content, si ce fil de réflexion ne vous satisfait pas, Il y a une obligation d'expliquer en plus, en détail, l'approche qui a été adoptée de la part du groupe. Bon, c'est assez vague, mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, si vous avez une liste de diffusion, vous rendez publique votre liste de diffusion, dès qu'elle est devenue publique, la discussion s'est arrêtée. Vous l'utilisez pour publier des documents préliminaires et des documents définitifs, et ça vous permet à vous de dire, nous sommes transparents, mais c'est un prétexte, parce que vos discussions se sont arrêtées dès lors que vous les publiez. Et le problème, c'est que nous savons que vous avez des conversations, mais il y a aussi... mais c'est aussi, vous utilisez aussi un prétexte d'ouverture, donc cela génère des soupçons. Vous dites, bon, je sais, les gens se disent, ils ont des conversations, ils discutent et ils disent qu'ils sont ouverts, mais je ne peux pas les voir en général. Et cela en soi engendre des soupçons et cela ne soutient pas notre cause. Je sais que vous ne le faites pas parce que je connais bon nombre d'entre vous et je sais ce que vous essayez de faire. Mais c'est l'impression que cela donne. En ce qui concerne les présentations, les experts indépendants, vous avez pris une décision de les publier après avoir pris la décision. Et je sais les arguments que vous avancez pour justifier cela, mais je pense que c'est une erreur très importante. Il y a des personnes qui vont faire le travail essentiel de cette équipe d'évaluation et nous ne savons pas ce qu'ils disent ou combien ils vont coûter et vous allez nous le dire, mais après que la décision a été prise, et ce n'est pas une manière de rendre des comptes, et ce n'est pas transparent de dire simplement, ah voilà ce qui s'est passé, de nous mettre devant le fait accompli. Je pense que cette session fermée n'était pas nécessaire. C'est exactement, à mon avis, c'est la logique défectueuse qui est un peu présente partout dans ICANN, plus largement. Et c'est et même si nous avons pris la décision, eh bien, nous sommes quand même ouverts parce que nous vous communiquons la décision. Mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent pouvoir dire, je pense que votre logique n'est pas correcte. Et... ils veulent pouvoir interagir avec vous avant que la décision soit prise. Pardon. Vous n'êtes pas ouvert non plus par rapport à votre budget. Ce n'est pas votre argent. Vous dépensez l'argent de la communauté et vous n'êtes pas ouvert, vous ne communiquez pas suffisamment d'informations sur la manière dont vous dépensez l'argent et sur quelle somme d'argent vous réservez. Donc vous pouvez nous dire que vous avez mis de côté deux chiffres selon deux scénarios différents, l'un 189 000, l'autre 323 000. Très bien. Vous savez que les gens comprennent que toutes ces choses coûtent, mais en ne disant rien, cela engendre de nouveau des soupçons. De nouveau, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que le monde ne s'est pas terminé. Ce n'a pas été la fin du monde. J'ai dit aux gens quels étaient les chiffres que vous aviez mis dans vos réserves et le monde continue à tourner. Mais si vous êtes plus ouvert, vous vous rendrez compte que parmi ceux qui sont parmi les commentaires furieux que vous recevez ou les commentaires utiles que vous recevrez, et vous aurez aussi un feedback très utile. Donc j'espère que ce feedback vous sera utile. Alors, ceux qui font offre pour réaliser ce travail très important sont des consultants en gestion et ce sont des universitaires. Et ils ont un prix très élevé. Et je suis sûre qu'en lisant ce que vous dites que vous voulez faire, que ce sont les personnes que vous voulez utiliser pour faire les évaluations. Or, vous voulez des évaluateurs et vous êtes à Bruxelles. Et c'est un des grands axes où se concentrent tous les évaluateurs, les consultants dans le monde, à cause des deux organisations d'évaluation très importantes qui sont l'Union européenne et les Nations unies. Vous devez expliquer pourquoi. Mais ces organisations doivent expliquer pourquoi elles dépensent l'argent. Il faut utiliser l'argent de manière responsable. Vous avez trois axes. New York, il y a un marché extrêmement concurrentiel à New York que vous n'avez pas du tout exploité et ce serait peut-être plus utile d'utiliser les ressources qui sont là-bas plutôt que des consultants en direction et en management et ceux-là vous coûteront probablement beaucoup moins cher. Il y a tout un marché là-bas et ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas qui est ICANN. Donc moi je pense que vous devez les chercher ces gens-là, les gens compétents. Je pense que ce sont les personnes que vous devriez chercher et au lieu de vous adresser à des consultants en management extrêmement chers. Donc ce que je veux dire, parce que c'est très fondamental, c'est que vous faites certaines choses qui sont très bonnes. Vous avez réalisé énormément de travail en un temps très court et j'aime bien les questions que vous avez produites, que vous avez élaborées. Elles disent donnez-nous des exemples, mais certaines des questions, des autres questions sont plus larges, plus vagues et elles ne nous amènent nulle part. Et vous semblez vraiment être déterminé à identifier des problèmes. et ensuite à trouver des solutions. Et donc ça, c'est bon. Mais malgré mes critiques, il y a des bonnes choses. Mais si vous pouvez essayer d'être réellement ouvert plutôt que d'accepter les arguments qui justifient le fait que vous n'êtes pas ouvert et les accepter trop vite. Et n'oubliez pas que vous êtes le représentant de la communauté, que vous êtes nos représentants. Et je sais que la communauté attend de vous que vous soyez aussi ouvert et responsable, aussi transparent que possible. Je tiendrai compte de tes suggestions et je garderai l'esprit ouvert par rapport à ça. Merci beaucoup.
Alors, vous avez dit qu'on était trop rapidement ouvert et trop rapide à nous refermer. Alors, pour ce qui est de cette situation où il y a des concurrents qui font une présentation devant une équipe d'évaluation, si vous rendez cette séance ouverte et qu'il y a des concurrents qui sont en ligne ou dans la salle, ça génère des problèmes. Donc, avec cet exemple précis, eh bien, nous estimons que nous avons fait la bonne chose. Alors, on apprend au fur et à mesure pour ce qui est de la liste des courriels. D'après moi, je pense qu'on a fait preuve d'une ouverture trop rapide dans certains cas. Mais on a des discussions actives en équipe pour parvenir à cet équilibre. Et nous sommes animés d'une philosophie de plus d'ouverture, même si c'est pas toujours facile. Et on essaie vraiment de donner un exemple. Et toutes vos critiques sont les bienvenues. Nous les embrasserons et on continuera à discuter pour avancer. Cette équipe sera un modèle pour les équipes d'évaluation qui suivront et nous faisons un travail de pionnier qui est difficile. Merci beaucoup. Steve, merci. Je travaille pour NetChoice, je m'exprime en nom personnel. À Nairobi, les commentaires que j'ai soumis, alors vous vous souvenez que j'ai parlé d'intérêt public qui est absolument essentiel dans le travail que vous faites. Et cet intérêt public, alors pour être bref, il faut une définition et celle que je propose dans ce contexte est de maintenir la disponibilité et l'intégrité des DNS 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, toute l'année, dans chaque script et dans tous les TLD. C'est. Donc pour ça, il faut le bon nom de domaine et l'intégrité et la disponibilité sont au cœur de cela. Et c'est propre à la mission de l'ICANN et c'est une définition que l'on peut inclure dans ce qui touche à l'intérêt public. Mais vous avez probablement étudié ce qu'on vous a soumis et rejeté parce que dans le mandat, il est dit que l'intérêt public est servi en créant un environnement dans lequel toutes les parties prenantes ont l'assurance que les règles sont débattues, affinées, pour refléter les contributions de la communauté, y compris les gouvernements qui participent à l'ICANN et que tous les points de vue sont pris en compte. Et c'est une bonne définition de l'intérêt public quand on essaie de résumer une discussion abstraite. Donc votre définition d'intérêt public probablement serait bonne pour l'industrie alimentaire, une organisation mondiale qui tente de s'attaquer au changement climatique. C'est indépendant du contexte. En fait, il s'agit simplement d'attaquer ça sous l'angle du processus et de s'assurer que les règles sont suivies une fois qu'elles ont été définies. Et la définition doit être plus pertinente vis-à-vis de ce que fait l'ICANN. Quand vous regardez la responsabilité de l'ICANN pour ce qui est de la disponibilité et de l'intégrité des DNS, je pense que vous aurez des réponse différente plutôt que la question que vous avez soumise. Donc parfois les processus de l'ICANN effectivement génèrent une reddition de compte avec un suivi, une application des règles, mais le résultat est que on n'a pas fait ce qui était le mieux pour la disponibilité et l'intégrité des DNS. Merci. Je vais répondre si je peux. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une définition de l'intérêt public. Il dit que l'intérêt public sera servi par et ensuite on décrit un processus. En fait, le groupe a passé beaucoup de temps à discuter de cette question en particulier. Pas seulement l'intérêt public, mais la reddition des comptes, la responsabilité. La reddition des comptes et quel type de responsabilité est due dans chaque situation en fonction des relations avec les parties et ces éléments. Et c'est une des choses que nous sommes en train de faire. Et je dois dire que j'étais assez sceptique au début. Et finalement, j'en suis venue à penser que c'est une des choses les plus importantes que nous faisons. C'est examiner de façon très détaillée certaines questions. Qu'est-ce que la responsabilité, la reddition des comptes au sein de l'ICANN ? Parce que l'ICANN peut avoir différentes responsabilités comparées au CC. Nous allons examiner l'intérêt public dans toutes ces, sous toutes ses facettes, dans ces contextes. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une définition, c'est une définition de notre service. Peter, j'aimerais votre point de vue, Steve, sur un certain nombre de choses, parce que vous nous mettez au défi. Le règlement de l'ICANN mentionne cela. Et la mission de l'ICANN est quelque peu différente. Donc j'aimerais bien connaître le point de vue de quelqu'un comme vous qui a analysé ces questions. Quelle est la différence entre les obligations dans le mandat vis-à-vis de la communauté Internet ? Comment cela diffère des obligations vis-à-vis de l'intérêt public ? D'après moi, comme Becky l'a mentionné, nous servons des publics très variés. Leurs intérêts sont souvent conflictuels. Et ce serait un exercice éminemment difficile que d'obtenir le point de vue de la communauté au sujet de l'intérêt public. Et j'aimerais bien connaître votre point de vue. Merci, Peter. Comme vous le savez probablement, j'ai soumis une suggestion très concise sur une possibilité de définition à la lumière de l'intégrité et la disponibilité. Je le soumets et j'espère que quelqu'un a une meilleure définition. Mais c'est lié l'intérêt public à la mission de l'ICANN et pas le fait de savoir si l'ICANN est respectueuse des points de vue. L'ICANN a une mission. Alors vous avez mentionné le mandat, le règlement. Oui, on mentionne l'intérêt public. Mais l'affirmation des engagements, là aussi, est très claire quant à l'intérêt public mondial. C'est les utilisateurs d'Internet. Donc même si ça fonctionne dans les règlements, dans les différents articles, est-ce que c'est suffisant que cela apparaisse dans les engagements pour que ce soit examiné ? Il faut que ce soit cohérent. Ça peut être également plus précis à la lumière des engagements, de la mission de l'ICANN. Parce que d'après les règlements, on signe quelque chose et on s'engage à servir la communauté mondiale des utilisateurs d'Internet. Et c'est ça ce que ça représente. Oui, je vous en prie. Alex Kakuru. L'intérêt public m'amène à réagir. Alors, groupe de participants non commerciaux. L'intérêt public, eh bien, pour moi, l'ICANN s'assure du point de vue technique que l'Internet fonctionne. Et pourquoi cela fonctionne ? Eh bien, c'est pour qu'un Internet fonctionne au plan mondial. Et c'est servir les intérêts du monde. Une fois que l'Internet fonctionne, comme ça a été le cas, libre de menaces, il s'agit de servir le public mondial. Et je pense que ce sont tous ces gens de par le monde qui ont des intérêts et c'est ça que sert l'Internet. Alors il y a des procédures, toutes sortes de processus qui ont trait à l'ICANN, qui revêtent cet intérêt public de tous ces utilisateurs d'Internet. Sans cela, l'intérêt public n'est pas servi, respecté, même si l'Internet fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci, Bruce. Merci, Brown. Il y a mention de l'intérêt public dans le règlement avec une valeur clé. Introduire la concurrence dans l'enregistrement des registreurs. Et cela sert l'intérêt public. Pour ce qui est du GNSO, c'est très clairement expliqué. C'est fait dans l'intérêt du public. Donc, l'affirmation des engagements comme quelque chose de nouveau, non, ce serait un mythe. Et le Conseil pourrait donner son avis là-dessus. Je pense que les structures de l'ICANN en tant qu'organisation à but non lucratif basée en Californie, impose des exigences en matière d'intérêt public. Donc je pense que tout est là. Donc l'affirmation des engagements est un document qui mentionne l'intérêt public. Alors ça pourrait être resserré ici et là dans certains processus d'élaboration de formulation politique. Et l'étude économique qui a récemment été publiée a tenté de mesurer les bénéfices sociaux. Et les bénéfices sociaux, en termes nets, c'est le bénéfice privé qui est abouti avec le lien entre registraire et registrant. Quelque chose que l'on voit chaque fois plus dans les communications de l'ICANN. Et il faut définir cela quelque peu plus clairement avec des exemples pour nous guider dans la formulation de politiques pour aller de l'avant. Merci Bruce. Eric. Merci. Je vais m'exprimer en espagnol, si vous me le permettez. Donc, chaussez vos casques. Ah, ce serait bien qu'on ait ça aussi traduit à l'écran. Un des problèmes essentiels quand on parle de transparence, c'est que l'on soit compris de tous. Si l'on n'est pas compris de tous, parce qu'ils ne savent pas de quoi on traite, parce qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires, ou parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous disons, parce que notre langage est incompréhensible, eh bien nous sommes confrontés à un problème de transparence. On a évoqué cela ces dernières années à l'ICANN. La LAC a travaillé durement et on organise des séances avec interprétation simultanée et des documents traduits. Et ça fait partie de ce que l'on doit continuer à faire à l'ICANN. Une partie des questions, est-ce suffisant? Est-ce que disposer de documents traduits est suffisant? Est-ce que l'interprétation est suffisante pour donner un sentiment de transparence à la communauté dans l'accès à l'information, ce qui est aussi l'autre revers de la monnaie? Mais quand on en vient à la réception des commentaires que l'on peut voir sur le site internet de l'ICANN, la page web, qui touche à divers thèmes, pas seulement ceux dont nous traitons ici et maintenant, mais toutes sortes de sujets, eh bien, il y aura 2, 3, 4, 5 commentaires. Ce matin, la vice-présidente, oui, il me semble, du Parlement européen, disait que les prochaines années, il y aura 3 milliards d'utilisateurs. Et nous n'avons reçu que 3 ou 4 commentaires. Et quand on les lit, eh bien, on a quelques doutes. Pour une raison ou une autre, peut-être pouvez-vous nous aider à mieux comprendre cela, la communauté reçoit la documentation dans sa propre langue, bénéficie d'espace et de temps pour la recevoir, mais ne contribue pas. Peut-être parce qu'elle n'en a pas les capacités. Peut-être parce qu'elle n'est pas intéressée. Avant, effectivement, on pouvait dire qu'ils ne disposaient pas des documents dans leur langue. Aujourd'hui, nous avons parlé avec les registraires. Et ceux-ci nous disaient, ce n'est pas une question prioritaire pour nous, mais on doit de toute façon utiliser les outils linguistiques dont on dispose. Ça a également trait à la diversité culturelle et linguistique. Un dernier commentaire, et pour continuer à vous motiver, pour que vous interveniez, la transparence implique non seulement la transparence d'un côté, mais exige également que la base elle-même demande cette transparence. Les organisations de base, les groupes d'intérêt, les organisations, à quoi s'occupent-elles? Que font-elles pour qu'il y ait cette transparence à l'ICANN? Alors, il ne s'agit pas pour nous d'exprimer nos points de vue ici à la table, mais d'entendre votre point de vue pour que l'on ait une meilleure perception de ce qui est en jeu. Merci.
Thank you, Eric.
Merci, Eric. Karen. Oh, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors, des résumés. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et le comité de participation a élaboré un document, politique opérationnelle de formulation de documents. Et là, il est dit que les gens allaient se charger de produire des résumés de chaque réunion. On en parle depuis longtemps. On a dit, si on peut avoir un résumé, les gens peuvent le lire beaucoup plus rapidement. C'est rapide et peu onéreux à traduire. Donc vous pouvez vous en saisir très rapidement et vous pouvez aussi le diffuser dans plusieurs langues. Et si les gens veulent le document exhaustif, eh bien, vous pouvez l'avoir. Alors j'ai formulé ceci, ça a suivi la procédure, ça a été présenté au conseil d'administration 2-3 fois, ça a été approuvé, mais je n'ai pas l'impression que ce soit suivi. Et ça, c'est un élément de responsabilité. Mais dans l'ensemble des nombres de tâches à accomplir, c'est quelque chose qui, effectivement, avait été endossé par tout le monde. Mais il n'y a pas de suivi, donc finalement, il n'y a pas de reddition de compte. Et malheureusement, ça se reproduit ici et là. Il y a un nombre de documents et de politiques qui reprennent nombre de renseignements et d'informations précieuses et qui ne sont pas suivies. Ça, c'est une question conséquente. Oh, il y a beaucoup de gens qui attendent, donc je vais être rapide. Alors, il faut faire des critiques constructives. J'en reviens à l'ouverture et la transparence. Même quand c'est quelque chose de pas aisé ou si vous commettez un impair, on ne va pas s'arrêter là-dessus, ce ne serait pas constructif. Mais si vous apercevez qu'il y a des problèmes sous-jacents et vous allez être confronté à des problèmes, eh bien, vous pouvez vous interroger utilement sur les limites de la reddition de comptes et de la transparence. À quel moment ça devient contre-productif? Et là, vraiment, vous pouvez avoir un rôle décisif parce que vous faites preuve de bonne volonté. Il y a beaucoup d'intérêt dans le travail que vous accomplissez. Alors, un exemple qui m'est venu à l'esprit, en venir à quelque chose de précis. Alors, est-ce que c'était transparent? Est-ce que c'était responsable? Ce qui a été considéré comme un succès, c'est les premiers changements dans le RAA, après qu'il y ait eu cet incident, et le résultat final était excellent. Il fut un temps où on avait toutes ces suggestions de changements, ces contributions, et puis après, ça passait. Et puis après, il y a eu les registraires. Je ne me souviens pas de voir toutes les modifications effectuées en session ouverte. Quand c'est revenu, beaucoup étaient ennuyés. Et finalement, on est parvenu à un équilibre qui satisfait plus ou moins tout le monde. Mais je me souviens qu'il y a eu une phase intermédiaire où c'était opaque. Le fait que tout le monde soit d'accord avec le résultat final est une excellente chose, mais vous pouvez l'examiner comme une épine ou mettre du sel sur la plaie, mais je pense que ça vaut le coup d'examiner cela. Merci beaucoup, Karen. Nous sommes ici pour... Nous allons faire des recommandations pour le mois de décembre pour des modifications constructives au processus décisionnel de l'ICANN. L'idée étant d'apporter des améliorations futures. Rien de ce que nous faisons ne vise à revenir sur le passé. Et je vous remercie de cet exemple. Nous n'avons pas encore de budget, donc merci d'avoir soulevé cette question. Et on n'a pas encore de budget arrêté, on en est encore au début. L'évaluation des réponses aura un impact sur le budget. Donc voilà pour l'instant où on en est. Et je ne sais pas si c'est un exemple de l'utilité de la transparence ou pas. Je ne sais pas, je vous ai peut-être rendu la vie plus difficile. Non, tout a été noté, tout est intéressant. Merci, Bertrand. Bonjour, je suis Bertrand de la Chapelle. Je suis l'envoyé spécial pour la Société de l'information et le ministère français. Merci de l'opportunité d'échanger. On a déjà eu la possibilité de le faire sur certaines questions ayant trait au GAC. Mais ici, j'aimerais traiter d'un certain nombre d'éléments en termes généraux. Premièrement, je veux réitérer un commentaire que j'ai déjà fait en d'autres temps et lieux sur la transparence et la différence entre la disponibilité de l'information, son accessibilité et sa sa clarté, le fait qu'elle est compréhensible. Avec Karen, on a eu beaucoup de discussions sur ces résumés, executive summaries. Je ne suis pas certain que ce soit le bon instrument. Ils sont utiles. En général, ce dont on a besoin, ce sont des rapports d'avancement. Quelque chose qui, avec régularité, démontre combien les choses ont avancé afin que les gens puissent suivre ces évolutions. Un exemple. Récemment, dans une autre organisation, nous avons reçu un document pour un groupe de travail. Ce document était un document modifié d'une version publiée l'année dernière et sans aucune modification traçable. On ne sait pas ce qui a été changé, éliminé, enlevé, rajouté. Et ça, c'est quelque chose de très important pour permettre aux gens de suivre le processus. Deuxièmement, la reddition de comptes, la responsabilité. Beaucoup de discussions ont eu lieu sur ce qu'on entendait par option nucléaire, c'est-à-dire la responsabilité de dernier ressort du Conseil. Le véritable impact de la responsabilité, c'est quand toutes les étapes du processus ont des mécanismes d'appel. Non, ils ne doivent pas être nécessairement lourds. Si vous avez un processus d'appel à des étapes précoces, vous risquez de stopper le processus, devoir recommencer quelque chose. Mais si quelque chose se déroule mal, par exemple, si un groupe de travail fait un rapport ou un résumé et ne couvre pas un thème qui devait l'être, il doit y avoir des boucles de rétro-information. Et ces boucles de rétro-information sont un instrument intéressant. Il suffit parfois d'avoir le point de contact, formaliser un petit peu les choses. Je n'ai pas de suggestions précises, concrètes. Mais ça, c'est plus vous avez des boucles dans les étapes précoces et moins vous avez besoin d'une option dite nucléaire. Hein. Alors, je suis impatient de revoir, rejouer la discussion que j'ai eue avec Karen à Mexico. Alors, l'affirmation des engagements, c'est très important. Et il réaffirme l'importance de cette notion et de cette mission. J'aimerais partager avec vous une analogie. Tout fonctionnaire, député ou ministre a pour mission, lorsqu'il traite de ceci au plan national, pour utiliser les termes de Peter, oui, ils ont cette mission et il y a des intérêts conflictuels et c'est justement la difficulté de définir l'intérêt public. Alors il y a des processus au sein du Parlement, d'un gouvernement, il y a des mécanismes de consultation et d'appel. Le Parlement est chargé de définir l'intérêt public national qui transcende l'intérêt individuel des acteurs. À l'échelle de l'Union européenne, il y a un mécanisme semblable qui tente de définir l'intérêt du public européen qui est parfois en opposition avec les intérêts nationaux immédiats. Mais il transcende ces intérêts et il y a un arbitrage entre les intérêts de long terme et de court terme. Et ça, c'est une partie importante de la définition de l'intérêt public. Et dans ce cas, ici, pour l'ICANN, le défi, c'est de définir cet intérêt public mondial qui transcende et réunit tous les intérêts différents afin que l'évolution se fasse de façon à tenir compte des intérêts individuels au mieux, mais en même temps oblige les acteurs lorsqu'il y a contradiction. Donc les défis, c'est que les participants au processus de l'ICANN doivent coiffer deux casquettes. Ils sont ici pour défendre et présenter leurs intérêts ici, mais en tant que structure collective et collégiale avec ces processus, ils ont également une responsabilité de participer à la définition d'un intérêt mondial. C'est comme lors d'une fête, vous devez couper le gâteau et quelqu'un va vous dire « oui, mais vous allez prendre quelle part du gâteau ?» Le mécanisme typique, c'est de demander aux gens de concevoir quelque chose qu'ils vont accepter si ils n'étaient pas en charge de la conception. Parce qu'il y a parfois là une grande différence. Enfin, un commentaire rapide. Il s'agit du passé de l'évaluation. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Votre travail a beaucoup trait à l'avenir et à la préparation des 10 prochaines années. Un des principaux défis pour l'ICANN, ce sera scalability, l'extension. Comment est-ce que vous allez croître? Alors, on peut voir ça par duplication, de façon fractionnée, avec création régionale d'IGF. Je suis préoccupée si l'ICANN conçoit son évolution seulement comme la croissance d'une structure unique, sans prendre en compte suffisamment des éléments du règlement qui recommandent la délégation des fonctions et des responsabilités, donc une structure, un modèle plus décentralisé. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais cette notion est très importante. Enfin, comme Marilyn l'a indiqué, vous tenez également compte de ce qui a déjà été fait, notamment le comité sur la stratégie pour améliorer la confiance institutionnelle. Certaines des recommandations ont été étudiées, incluent l'internationalisation de l'organisation et sa dimension. Et ça inclut des éléments tels que la structure juridique, la localisation, la composition du personnel, combien le personnel est international. Et j'invite vraiment l'équipe à se pencher là-dessus, même si les recommandations exigent un travail plus avant après cela. Merci. Nous, on a peu de temps. On va également consacrer une séance sur le mécanisme de révision. Donc intervenez aussi brièvement que possible, s'il vous plaît. Avery. Et nous avons également quelqu'un en ligne. Avery Doria. Je vais essayer d'être concise. Je n'ai pas pris de notes. Mon principal problème lorsque j'examine la reddition des comptes et la transparence à l'ICANN, c'est que je vois une organisation avec une personnalité multiple. Quand on regarde les comités consultatifs, vous voyez ce que l'on trouve dans le rapport, une des organisations les plus transparentes et qui lutte à chaque fois pour être plus transparente. Si vous regardez le personnel, il y a une culture du secret. Et ça commence par des secrets. Et peut-être, si quelqu'un vient avec une cale, il parvient à faire ouvrir la porte, et là, la lumière parvient. Alors que par ailleurs, c'est tout à fait ouvert, et à moins que quelqu'un ait une bonne raison de mettre un couvercle là-dessus. Et il y a donc ces deux cultures. Alors, un des exemples, c'est la prolifération des secrets, des mémos secrets du personnel au conseil d'administration. Personne ne les voit jamais. Personne ne peut même dire s'ils existent. Peut-être ils existent, peut-être ils sont justifiés, peut-être ils peuvent être erronés de façon accidentelle. Personne n'en sait rien. Donc, pour ce qui est d'avoir un personnel qui soit responsable, et ça, c'est le personnel et pas les volontaires. Mais c'est pas l'organisme dans son volet politique qui peut le faire, parce que tout est dans l'obscurité. Alors, point 5, évaluation du Conseil. Une des choses que j'ai toujours appréciées, c'est quand le Conseil a fait une révision de tout. Il a fait la révision des SO, des conseils consultatifs. Oui, c'était pertinent. Quand le conseil a dû faire une révision, encore une fois, c'est le conseil d'administration qui a fait sa propre révision. Ce n'était pas des gens en dehors du conseil. Ils n'ont pas été invités à dire, bon, on a des interactions avec eux, on va les évaluer. Il nous appartient de faire cette révision. Alors, je suis heureuse de le voir parce que je l'oubliais, c'était mon deuxième point. Les personnes ne doivent pas faire leur auto-évaluation.
Merci, en tout cas, par rapport au premier point que vous avez soulevé. C'est un point de discussion active. Nous avons discuté des documents relatifs au personnel avec le conseil d'administration. C'est vraiment un point qu'on examine et qu'on examine en termes de notre évaluation. On a déjà entendu ça de la part de la communauté. Chris, est-ce que je peux ajouter que le message au conseil d'administration était, je ne suis pas sûre qu'il y ait une prolifération de ces rapports secrets, le flux habituel, mais vous et moi, nous pouvons parler du volume, mais mais le programme qui est en place pour publier les recommandations du personnel au conseil au moment de la prise de décision du conseil fonctionne. Donc, Chris Spain, le président du CCNSO, mais je parle en mon nom propre. Je voulais vous dire merci pour ce bon travail. Je pense que toutes ces cinq questions sont très bonnes et méritent des réponses, autant de réponses que possible. Et je vous félicite d'avoir demandé des exemples spécifiques. Je sais que quelquefois, il est difficile de fournir des exemples spécifiques parce que nous avons la théorie selon laquelle il y a des choses qui se passent, nous avons l'intuition, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, nous ne pouvons pas vraiment mettre le doigt dessus. Et donc, c'est très important de demander des exemples spécifiques. Et vous serez peut-être surpris d'entendre que j'en ai un, et c'est par rapport au point 3, quant à savoir si on pense qu'il y a un manque de transparence. Alors, je pense que ICANN est une organisation extraordinairement transparente, mais si vous demandez des exemples de non-transparence, il y en aura toujours de tels exemples. Je ne suggère absolument pas que ICANN n'est pas transparente, elle l'est, mais il y a quand même des problèmes. Mon exemple spécifique est le suivant. Je n'ai pas les dates sous les yeux, mais je vous les fournirai. Traditionnellement, en fait, depuis toujours, lorsqu'il y a une redélégation d'un CCTLD, nom de domaine au premier niveau avec code pays, il y a un processus qui est mis en œuvre dans IANA, ce qui fonctionne très bien, un rapport de recommandation destiné au conseil d'administration, et ensuite le conseil prend une décision. Alors, donc il y a des discussions sur ces décisions, et ces discussions sont toujours publiées, sont toujours publiques. Et un certain jour de 2009, je ne me rappelle plus si c'était en septembre ou en octobre, il y a eu une redélégation pour laquelle la discussion n'a pas été publié. Et il s'est avéré que maintenant le Conseil a décidé, et il semble qu'ils aient décidé qu'ils n'allaient plus publier leurs discussions sur les redélégations. Parce que lors des redélégations suivantes, ces discussions n'ont pas été publiées, n'ont pas été rendues publiques. Alors je pense que c'est un exemple spécifique de non-transparence. Merci. Merci, Chris. Et tous ceux d'entre vous qui ont, s'il vous plaît, des exemples spécifiques, donnez de la documentation, des résumés à l'équipe et sur les sites web, nous trouverons le moyen de poster ces informations. Nous avons une question en ligne, nous avons deux personnes qui demandent ici à poser des questions, nous allons devoir écourter. Stuhl Oli du registre ICM. Alors, nous sommes probablement dans un petit club de personnes qui ont utilisé chacun des mécanismes de responsabilité de reddition de compte du Ombudsman, le mécanisme de reconsidération d'évaluation indépendante. Je vous présenterai des documents, je vous soumettrai des commentaires par écrit, mais pour répondre à Monsieur Strickland hier, qui demandait des exemples, j'ai quelques tout petits exemples que vous aurez peut-être envie de prendre en considération et je peux vous donner des informations pour les étayer. En ce qui concerne l'Ombudsman, je crois que l'Ombudsman fait un bon travail. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit suffisamment agressif et je ne pense pas que le conseil d'administration l'écoute suffisamment. Nous avons introduit une plainte devant l'Ombudsman en novembre 2005 sur la publication précoce du rapport d'évaluation pour les candidats STLD. Et
Donc c'était lors de la rencontre de Vancouver, à la veille de la rencontre de Vancouver, et l'ombudsman nous a assuré que il avait parlé au personnel et au conseil et que les rapports n'allaient pas être publiés jusqu'à ce que nous ayons atterri à Vancouver et jusqu'à ce que nous ayons eu une réunion avec le personnel. Mais écoutez bien, lorsque nous avons atterri à Vancouver en novembre 2005, on n'avait pas tenu compte de ces instructions de manière unilatérale et les rapports avaient déjà été postés. À notre avis, ce qui nous avait porté préjudice. Donc, ça, par rapport à l'ombudsman, en ce qui concerne le comité de reconsidération, je remarque que ces jours-ci, il n'y en a pas beaucoup. Et encore une fois, c'est une observation générale. À mon avis, cela peut être dû à deux choses. Soit c'est parce que l'ombudsman fait un bon boulot et par conséquent, il y a très peu de choses qui doivent passer par le comité de reconsidération. Ou c'est simplement parce que la communauté a tout simplement perdu foi en la capacité du comité de reconsidération, étant donné l'histoire des résultats qui ont été produits par son travail au début. Donc, voilà, c'est une observation générale par rapport au comité de reconsidération. Pour revenir aux évaluations indépendantes et la méthode de reddition de compte de ICANN, et j'espère que vendredi de cette semaine, nous allons vraiment découvrir s'il s'agit vraiment de la méthode définitive de reddition de compte d'ICANN. Bon, je ne vais pas en dire davantage, à part le fait que j'ai trouvé personnellement que c'était assez décevant que dans les auditions et dans les documents qui étayaient ces auditions, j'ai été déçu par le fait que les arguments principaux de l'ICANN ne portaient pas sur les faits du litige. Ils se concentraient sur trois problématiques qui sont probablement réglées maintenant et malheureusement qui ont probablement coûté cher à l'ICANN et à l'ICM. Nous avons probablement dû créer un précédent et cela a été... Que la décision du panel ait été contraignante ou pas, elle devait normalement être non contraignante. La seconde question était de savoir si ICANN était soumise au droit international. Le panel a décidé que ICANN était effectivement soumis au droit international. En troisième lieu, ICANN a présenté comme argument le fait que le travail l'évaluation indépendante avait un niveau ou répondait à une norme d'évaluation différente plutôt que de s'agir d'une évaluation complètement nouvelle. Et l'ICM a prévalu dans cette discussion. Donc, tout le processus a coûté très cher aux deux parties. Je crois que les factures de services juridiques des deux parties ont presque atteint 8 millions de dollars, ou en tout cas plus de 7 millions de dollars, et ça a pris énormément de temps. Je crois que l'équipe d'évaluation devrait vraiment examiner cela de plus près et s'assurer que les règles de remplacement ou de changement de règles pour l'évaluation indépendante expriment clairement le fait qu'elle est contraignante. Voilà, ce sont mes commentaires par rapport à la reddition de comptes, très brièvement par rapport à la transparence dans notre propre expérience. J'aimerais bien que l'équipe d'évaluation examine la politique sur le postage des documents, la correspondance, etc. À notre avis, l'évaluation indépendante a été un événement très important pour ICANN, mais on n'a pas annoncé lorsqu'elle a été réalisé à l'origine et en fait c'est un document dont nous n'avons pas été informés, il a été mis de côté immédiatement et on l'a retrouvé finalement sur des pages très difficiles à localiser sur le site web de ICANN. Lorsque les résultats ont été publiés, ça c'est très positif de la part d'ICANN, ils ont été publiés immédiatement et pleinement, ce qui était très bien, et les communications entre les deux parties immédiatement après la décision en février de cette année ont été publiées. Et en fait, ICANN, dans une tentative de plus grande transparence, a demandé notre permission de publier une lettre que nous leur avions envoyée, une lettre d'arrangement confidentiel. Alors ça, c'était à Nairobi. Et nous leur avons donné la permission de la poster dans l'intérêt d'une pleine transparence, justement. Cependant, depuis lors, plusieurs lettres assez importantes ont été échangées entre les parties et aucune de ces lettres n'a vu la lumière du jour sur le site web de l'ICANN. Donc l'équipe de l'évaluation pourrait peut-être vouloir se pencher sur qui décide des publications, quelle est le seuil à partir duquel on décide que quelque chose est important ou pas important. Merci beaucoup. Voilà. Notre dernier orateur, s'il vous plaît, que vos commentaires soient aussi brefs que possible. Eric Loeb. Je travaille chez AT&T. Je représente aussi la Chambre de commerce internationale. une infrastructure de télécommunication Internet et une task force de service que je co-préside. Simplement quelques commentaires sur la transparence. Je partage les intérêts des membres de l'ICC qui représentent plus de 120 pays géographiquement, aussi bien que dans le secteur de services. Alors, nous sommes une représentation très diversifiée du groupe d'utilisateurs commerciaux. Nous apprécions énormément les efforts que vous réalisez ici. La transparence, un thème de très haut niveau en matière de transparence sur lequel nous voudrions attirer votre attention, c'est qu'avec la transparence, il peut y avoir un aspect quantitatif et qualitatif. Par quantitatif, on peut supposer que simplement le postage d'un grand volume de documentation permet la transparence, et quelquefois c'est une erreur de supposer que rien que la quantité a du sens. Il est important d'assurer aussi l'aspect qualitatif, et ça signifie un dialogue adéquat et bien informé sur les problèmes substantiels, sur les problèmes importants pour arriver à des bons résultats. Il y a des domaines spécifiques où nous voyons une occasion d'amélioration, c'est sur la nécessité donc d'assurer cette qualité, et il faut aussi que la période, le temps, le délai adéquat s'écoule entre les consultations par rapport à des problématiques particulières, pour qu'il n'y ait pas tout à coup un groupe de plusieurs points qui sont soulevés en même temps, parce qu'alors on s'y perd. Et je crois qu'il faut faire des efforts de coordination, qu'il y ait plusieurs choses, faire plusieurs choses ou beaucoup de choses en même temps, ce n'est pas suffisant, il faut vraiment assurer la qualité. Alors finalement, le dernier point sur la transparence que nous voudrions soulever, c'est pour assurer que lorsque vous arrivez à une conclusion, après avoir digéré les contributions de qualité qui ont été reçues, qu'il y ait une bonne analyse, une analyse adéquate. Et lorsque on vous communique différentes opinions, que vous les preniez en considération. Et si vous faites les démarches nécessaires du côté qualité, si vous étendez vos consultations, il faut qu'il y ait suffisamment de temps et assurer que les décisions et la manière dont vous arrivez à ces décisions soient expliquées de manière claire, soient explicitées de manière claire pour améliorer. Ben, je pense que cela améliorera non seulement le résultat, mais aussi la confiance que les parties prenantes ont en votre manière de prendre des décisions et dans les délais que vous vous donnez pour prendre ces décisions. Voilà, l'équipe d'évaluation a déjà entendu présenter ces problèmes plusieurs fois au début de son existence, donc nous savons que ce sont des problèmes très clairs et nous allons certainement les prendre en considération. Je voudrais maintenant présenter mes excuses à Rod Beckstrom et Yanis Kakrin. Nous vous avons pris un peu de temps, mais si vous voulez maintenant parler de l'équipe d'évaluation entrante, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires de la part de cette équipe d'évaluation. Voilà, Yanis.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Yanis Kakrin. Je suis président du GAC et je suis un des deux sélectionneurs principaux des équipes d'évaluation. un des co-sélectionneurs des équipes d'évaluation en vertu des dispositions sur la reddition de comptes de l'affirmation des engagements, l'accord sur l'affirmation des engagements. Alors, au podium, nous avons un autre co-sélecteur, Rod Beckstrom, le CEO de ICANN, et Olof Nordling, qui soutient le processus d'évaluation du côté du personnel. Nous voulons profiter de ce moment pour vous présenter notre réflexion et nous voudrions faire une proposition sur la taille et la composition des équipes d'évaluation que nous voudrions mettre sur pied, que nous voudrions créer d'ici début octobre. J'attends toujours une image. Je voudrais vous rappeler qu'en vertu de l'affirmation des engagements, en vertu de cet accord, il y a quatre domaines où les évaluations doivent être réalisées. La première, assurer la reddition de comptes, la transparence et les intérêts des utilisateurs mondiaux d'Internet. Deux, préserver la sécurité, la résilience du DNS. Promouvoir la concurrence, la confiance et le choix des consommateurs et la politique WHOIS.
What is the current status on...
Alors, quelle est la situation actuelle de ces évaluations? Alors, la première équipe d'évaluation a été lancée en avril, donc sur la reddition de comptes de la transparence. Elle a été lancée en avril, elle est active. Vous avez la possibilité de participer à leur discussion avant cette partie de la session. Alors, maintenant, nous discutons des deux autres équipes d'évaluation qui devraient être établies d'ici octobre. Donc, celle qui va travailler sur la préservation de la sécurité, de la stabilité, de la résilience du DNS et la politique WHOIS. Alors, la quatrième équipe d'évaluation sur la promotion de la compétition, de la confiance et le choix des consommateurs sera lancée après le prochain round.
ICANN issued the... call for applicants for call for...
Donc, ICANN a lancé un appel aux candidatures, un appel aux volontaires le 1er janvier. En ce qui me concerne, en tant que co-sélectionneur de la première équipe, j'ai acquis une certaine expérience au cours du processus de sélection. Et j'ai tenu compte de toutes les leçons que j'ai apprises en tant que co-sélectionneur au cours de cette période. Et par conséquent, une des choses que j'ai faites avant de faire une annonce, des annonces officielles, j'ai entamé des consultations avec les présidents des organisations de soutien et des comités consultatifs. L'objectif de ces consultations était d'établir un lien de communication très clair et de rassembler des informations sur les attentes des différentes organisations de soutien et comités consultatifs par rapport à ces équipes d'évaluation et ensuite essayer de faire correspondre ces attentes avec la réalité. Alors d'autre part, le sondage qui a été publié, je pense, au début de cette année n'a pas fourni suffisamment d'informations aux sélectionneurs concernant ou pour la sélection de la deuxième, de la troisième, de la quatrième équipe d'évaluation. Et par conséquent, je me suis dit qu'il était très important de rassembler ces informations préliminaires et d'entamer ces consultations avec les présidents des organisations de soutien et les comités consultatifs pour faire les propositions en connaissance de cause. Nous avons été confrontés aussi à des difficultés pendant la période de sélection de la première équipe d'évaluation avec la notion d'approbation par la communauté, donc les volontaires. Alors, nous avons défini très clairement le processus d'approbation par chaque organisation de soutien et par chaque comité consultatif. Ces méthodes ont été développées par eux sur base de l'expérience de la sélection de la première équipe d'évaluation. Donc, comme je l'ai dit, l'appel aux candidatures a été lancé le 1er juin et on s'attend que pour le 15 juillet, nous disposions de suffisamment de volontaires prêts à participer à la quatrième équipe, à la deuxième et à la quatrième équipe d'évaluation, numéro 2 et numéro 4. Donc, ces volontaires seront autorisés par les organisations de soutien et les comités consultatifs selon leur procédure interne. La candidature consiste à servir en tant qu'expert indépendant. La candidature des experts indépendants ne sera pas prise en considération par les sélectionneurs. C'est uniquement si les volontaires ne s'avèrent n'être pas affiliés à aucune organisation de soutien ou aucun comité consultatif, alors là, leur candidature ne sera pas examinée. Alors, nous découragerions les volontaires à présenter leur candidature à plusieurs équipes d'évaluation. Je pense qu'il faut une large participation d'une grande diversité de représentants de la communauté aux quatre équipes d'évaluation. Alors, sur base des consultations, sur base des leçons que nous avons tirées du premier processus d'évaluation, les sélectionneurs, et ici je parle aussi bien au nom des deux sélectionneurs, nous proposons que l'équipe sur la sécurité, stabilité et résilience soit composée de deux membres des gouvernements, y compris le président du GAC ou un représentant de la présidence du GAC, deux représentants du GNSO, deux représentants du CCNSO, deux représentants de ALAC, un représentant de SSAC, un représentant de RSSAC, un représentant de l'ASO et le CEO de l'ICAN qui est un membre officieux en vertu de l'affirmation des engagements. Alors, il y aurait aussi dans cette équipe deux experts indépendants qui seraient sélectionnés par les sélectionneurs et ils seraient experts en matière de sécurité. Alors, concernant l'équipe d'évaluation de la politique WHOIS, les sélectionneurs proposent que cette équipe, dans cette équipe, la GNSO soit représentée par quatre personnes, qu'il y ait un représentant de CCNSO, un de ALAC, un de SSAC, un de ASO. Les gouvernements seraient représentés par le président du GAC ou un représentant du président. Le CEO de ICANN travaillerait dans ce panel d'évaluation et il y aurait un ou deux experts indépendants d'agences responsables du respect de la loi ou des experts sur les questions de protection de la vie privée. D'après notre compréhension, cette composition n'est pas la composition qu'auraient souhaité toutes les organisations de soutien et tous les comités consultatifs. Mais dans nos considérations, nous avons tenté de combiner la représentativité et l'efficacité. Et les aspects budgétaires ont bien sûr été pris en considération également parce que les processus d'évaluation ne sont pas prévus dans le budget de l'ICAN. Ils n'ont pas été budgétés, en tout cas jusqu'ici. Toutes ces considérations ont été prises en compte lorsque nous Nous avons pris notre décision sur la taille, et la composition des équipes d'évaluation. Je pense que Rod va nous parler davantage peut-être de la raison qui justifie cette décision, mais permettez-moi de conclure en vous présentant un calendrier. Les deux processus d'évaluation devraient être lancés d'ici le 1er octobre de cette année et devraient se terminer pour le troisième trimestre 2011. Et comme nous le voyons ici, les dates de lancement et la date de fin, donc le processus des candidatures se terminerait le 15 juillet. Et le 15 juillet serait le jour où tous les volontaires qui ont présenté leur candidature, ce serait le jour où leur liste serait publiée. Ensuite, le processus d'enquête ou d'approbation par les organisations de soutien et les comités consultatifs commencerait, et cela prendrait environ 45 jours, ce qui nous amènerait à la fin août. Lors de la première semaine de septembre, les sélectionneurs prendront une décision sur les nominations pour le travail, donc sur les deux équipes d'évaluation, en sachant que les organisations de soutien, donc en sachant clairement que les organisations de soutien et les comités consultatifs pourraient fournir davantage de noms, des noms approuvés de volontaires, que le nombre qui a fait l'objet d'un accord pour la représentation de chacun d'entre eux au sein de l'équipe d'évaluation. Cela permettrait aux sélectionneurs de tenir compte de toutes les connaissances nécessaires, toute l'expertise nécessaire, de tous les équilibres, équilibres géographiques, équilibres entre les sexes, etc. Et ensuite, ils fourniraient une liste des équipes d'évaluation. Et le mois de septembre serait utilisé par ces équipes d'évaluation pour lancer toutes les procédures nécessaires pour pouvoir lancer finalement l'évaluation dès début octobre. Cela m'amène à ma partie de la présentation, à la fin de ma présentation, pardon, et je donne la parole d'ores et déjà à Rod Beckstrom. Merci beaucoup, Yanis. Je pense que tu as couvert les points essentiels. Tu as réussi à nous expliquer le processus de sélection du groupe, la taille du groupe. Yanis a réussi à sensibiliser les différentes communautés, rentrer en contact avec elles. Et nous avons vraiment essayé d'équilibrer la taille des équipes, leur efficacité, en tenant compte de la pertinence des problématiques spécifiques et de l'intérêt pour ces problématiques spécifiques. Et je suis heureux de voir que nous sommes arrivés à ce qui semble être un consensus constructif. Je voudrais aussi, en vue d'un brainstorming pour les prochaines équipes d'évaluation, je voudrais dire que, outre le fait de rechercher, bien sûr, des candidats motivés et qui aient les compétences nécessaires et le temps nécessaire, nous cherchons aussi des cadres, des points de comparaison et d'autres modèles d'organisation que les différentes parties considèrent comme efficaces. Je ne sais pas quelles sont les meilleures synergies, par exemple, pour Whois. Il y a énormément de plateformes de partage et d'échange d'informations qui ont différentes répercussions juridiques sensibles au niveau de la vie privée, des questions de sécurité. Et il faut voir quelles sont les analogies qui existent et quels autres organes peuvent gérer ou être impliqués, ceux avec lesquels nous pourrions nous comparer. Donc je pense que c'est bon, il serait bon que les gens commencent à réfléchir au concept. Au concept de benchmarking, et donc bien sûr nous essayons de recruter les meilleurs. Si vous êtes intéressé par le processus, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à présenter vos candidatures ou les leurs.
Je vais intervenir sur des aspects très pratiques. Je vous en prie, vérifiez cette annonce et examinez de près les deux annonces. Et un petit conseil, il y a un point essentiel pour envoyer votre candidature. Mais en fonction de l'organisation de soutien ou du comité consultatif dont vous recherchez le soutien, il y a des exigences particulières par organisation de soutien et par comité consultatif et des liens vers ceux-ci. Donc, afin de nous faire parvenir votre candidature complète dès le départ, vérifiez ces éléments et suivez les instructions séparées, outre les instructions de nature générale qui figurent sur le site internet. Voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est des conseils pratiques en provenant de Suède.
So now it's time for questions, comments.
Et nous en venons aux questions et commentaires. Et j'espère des déclarations d'acceptation.
Please.
Je vous en prie.
My name is Mary.
Mary du Nigeria. Je représente le GAC au Nigeria. Je crois que l'affirmation des engagements indique clairement que le président du GAC et le CEO sont membres de l'équipe d'évaluation par défaut. Et selon votre présentation, nous avons une personne du GAC, pardon, le président du GAC ou son représentant, ou le représentant de la présidence du GAC. Le GAC, dont le membre est membre par défaut, je pense que le GAC doit également être représenté par deux autres personnes en tant que comité consultatif. Donc, WHOIS devrait également avoir un représentant en dehors du président du GAC. Oui, je peux vous expliquer le raisonnement. Vous parlez de l'équipe d'évaluation du WHOIS, où le GAC n'est représenté formellement que par une personne. Le raisonnement des sélectionneurs était le suivant. Il va y avoir deux experts indépendants dans l'équipe d'évaluation en provenance d'agences d'application de la loi ou bien des agences de protection des données. Et la règle veut que ces agences soient des agences gouvernementales. Et les gouvernements seraient donc représentés par deux ou trois personnes dans WHOIS parce que l'un et l'autre sont représentés par des agences gouvernementales. C'est là la logique. Et je vous invite à raisonner en termes de représentativité avec une notion d'efficience et de contraintes budgétaires. On a tenté de parvenir à un équilibre entre ces trois contraintes. Parfois, c'est vraiment une tâche peu aisée. Marilyn Cade, présidente du groupe représentant les utilisateurs commerciaux du GNSO à l'ICANN. Et je vais m'exprimer en cette capacité. J'apprécie le fait que les sélectionneurs présentent à la communauté une proposition et qu'ils demandent des réactions. Et ce faisant, cela implique qu'ils vont tenir compte de cette réaction de la communauté. Ma communauté préfère grandement suivre le modèle initial de l'équipe d'évaluation dans l'allocation du nombre de sièges, tout particulièrement un siège par SG au minimum. Et je peux parler du lien avec la diversité à la GNSO, mais j'ai des experts dans le panel. La sécurité, la stabilité, la fiabilité. Alors, attendre que quelqu'un qui soit sélectionné par les communautés de registraires et de registrants pour représenter les intérêts de tous les utilisateurs commerciaux et les organismes qui gèrent l'Internet n'est pas chose aisée. Et donc, nous y sommes sensibles. Nous pensons pour cela qu'il faut suivre le modèle initial. On a trois équipes. Alors, on a besoin, effectivement, d'apprendre les leçons acquises. Je pense que le budget ici doit être quelque chose de secondaire. Nous savons tous en tant qu'acteurs économiques et dirigeants que c'est important. Une façon de le faire, c'est choisir un lieu de rendez-vous pour le groupe plutôt que les gens se déplacent ici et là. Et avoir un budget maximum pour les déplacements dans ce sens. Je pense que, à mesure que vous rencontrerez les différents groupes, je sais que vous savez combien la communauté va avoir des difficultés à identifier les candidats que vous avez décrits. Et on aimerait que les sélectionneurs écoutent la voix de la communauté pour améliorer les nombres. Merci, Marilyn. Effectivement, c'est ce qui est proposé. C'est pourquoi on avait l'espoir que vous endosseriez cette proposition tout en s'attendant à quelques difficultés. Je les comprends. J'ai lu quelques commentaires qui m'ont été envoyés pour illustrer les sentiments au sein du GNSO. Et quand je les ai lus, j'ai eu le sentiment d'un malentendu très clair quant au rôle de ces équipes d'évaluation. La plupart des arguments avancés, en tout cas ce que j'ai lu, insistaient sur le fait que le groupe tenterait de corriger les problèmes quand il y en a et proposer des solutions plutôt que d'identifier s'il y a problème ou pas et fournir des recommandations au conseil qui interviendrait en décidant en dernier lieu sur comment solutionner les problèmes identifiés par les équipes d'évaluation. C'est la façon dont moi j'envisage la mission des équipes d'évaluation et dès le départ. Après l'adoption de l'accord, j'ai insisté à l'AOC que ce n'est pas le processus de révision qui a le plus d'importance, c'est le travail de l'ICANN dans tous les domaines et tout particulièrement les quatre domaines qui sont identifiés. Et donc, il ne faut pas tant se concentrer sur les révisions, mais s'assurer que l'ICANN soit performante dans tous ces domaines identifiés et consacrer toutes les ressources que l'ICANN peut consacrer pour travailler sur ces questions plutôt que consacrer ces ressources à des révisions ou à des équipes d'évaluation. Alors, Jean-Moi de Lepas, oui, je suis d'accord. C'est une équipe d'évaluation. Je suis d'accord avec votre commentaire sur la quantité de tâches à accomplir en plus des évaluations ou révisions. Je prends note de la préoccupation exprimée par le groupe des utilisateurs commerciaux quand on parle de révision ou d'évaluation et que les nombres doivent être révisés, tout particulièrement ce qui concerne le GNSO. Bon, je ne conteste pas, mais pour votre information, je peux divulguer ceci. Le GNSO a demandé 4 représentants initialement pour les 2 équipes. Le CNSO a demandé également le même nombre de représentants pour l'équipe en charge de la sécurité avec le GNSO. Et un représentant, si je ne m'abuse, pour l'autre groupe, l'ALAC a demandé 3 représentants à l'équipe, dans l'équipe d'évaluation sur la sécurité, le GAC, c'est dans les mêmes eaux. Et si nous devions accéder à toutes ces requêtes sans imposer de limites, on aurait une équipe d'environ 25 personnes. Et une équipe de 25 personnes, c'est une équipe qui n'est ni efficace, ni financièrement viable pour les moyens de l'ICANN. Et c'est donc l'avis également du deuxième co-sélectionneur sur la question. Les co-sélectionneurs sont tentés de parvenir à un équilibre. Et c'est notre proposition. Nous vous écoutons, mais de la même façon, nous aimerions faire appel à votre indulgence et à votre compréhension quant aux raisons qui nous amène à suggérer ce que nous présentons devant vous. Merci à vous tous. Merci de votre temps et de votre soutien à ce processus. Et nous sommes impatients d'entendre à nouveau les uns et les autres sur cette question. Nous allons procéder à des consultations et nous y reviendrons. Et nous espérons avoir de nombreuses candidatures de qualité. Merci beaucoup. Et si vous me permettez encore une remarque avant de partir, parce que je n'aurai peut-être plus l'occasion cette semaine. Personnellement, je voudrais exprimer ma gratitude à cet homme incroyable à ma gauche, Ian Skarkos, qui est vraiment un des grands artisans de ce qui a été fait dans le monde de l'Internet. Il est parvenu à pousser plus avant le processus WSIS qui était absolument vital. Il a contribué, il a dirigé le GAC. Il a été un membre exceptionnel du Conseil, toujours servant la liaison. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et ce que vous avez accompli avec autant de grâce et d'efforts exceptionnels mérite que je le cite personnellement et que je saisisse la moindre occasion pour le faire. On est triste de vous voir partir, mais on est ravis pour vous de votre prochaine destination et on est impatients de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup.